Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirika.
De l'actualité, coup d'envoi ce lundi à Kinshasa de la pré-COP 27 sur la protection et la préservation des forêts envisagées comme investissement dans le système climatique. Une vingtaine de ministres de l'environnement venus du monde entier prennent part aux assises. 14 personnes tuées et 36 maisons incendiées, c'est le bilan de l'attaque de rebelles ougandais de l'EDF ce week-end sur la localité de Kiamata dans les territoires d'Irumoi en Ituri. La société civile locale met le gouvernement central devant ses responsabilités. Notre invité, c'est le coordonnateur de l'Agence nationale d'électrification en milieu rural et préurbain. Thierry Sassi-Condé affirme que cette agence a installé déjà son agence dans un contexte lié au déficit criant d'électricité. Madame, messieurs, bonsoir. Tout investissement dans la protection et la préservation des forêts ne doit plus être envisagé comme une aide au développement, mais plutôt comme un investissement dans le système climatique mondial qui est un bien commun. À propos tenu ce lundi à Kinshasa par la vice-première ministre chargée de l'environnement, Eve Bazaïba, c'était à l'ouverture de la pré-COP 27 dont les assises ont été ouvertes par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kingé. Plus de 64 ministres venus du monde entier prennent part aux assises. Le point avec vous, Paul Matendo.
Eve Bazaïba estime que cette rencontre est une opportunité pour exprimer un certain nombre de préoccupations en rapport avec la préservation du patrimoine forestier congolais. Au nombre de ces défis, elle a appelé le monde entier à songer, par exemple, aux gardiens de forêt, car en tant que tels, ils ont droit à une rémunération. Du côté des pays pollueurs, le développement des populations riveraines est une urgence, comme le souligne Jolk O'Powell, ambassadeur de la Hollande en RDC et représentant du groupe des bailleurs.
Ça, c'est un message très fort qu'on peut pas oublier le développement, qu'on peut pas oublier la population et quand même les urgences pour toute la planète sont assez élevées.
Parmi les invités, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Pour lui, le réchauffement climatique est une affaire de tous.
Je crois que c'est un combat dans lequel tout le monde doit s'engager et nous, comme religieux particulièrement, au regard de la mission que Dieu a donné à l'homme. Et après cette séance, avec les autres leaders religieux, nous allons nous retrouver pour réfléchir.
Au total, 334 personnes participent à cette rencontre.
Merci Paul Matendo pour ces précisions. Les rideaux tombent ce soir à la première édition du Salon international de l'immobilier, architecture et design d'intérieur de Kinshasa, Batico, placé sous les auspices du collectif B avec l'accompagnement de Parkland et du groupe Pigma Communication. Cette année 2022, un accent particulier est mis sur la promotion de l'investissement et l'excellence immobilière en RDC. Un premier prix congolais de l'architecture et du design a été décerné pour encourager les talents locaux. Des précisions avec la responsable de la communication de Batico, Madame Émilie Louboukaï Tchanda, au micro de Jean-Marc Matouaki.
Alors, une des touches et une des propositions de valeur de ce salon, c'est qu'on aura des concours. Donc, c'est vraiment la valeur ajoutée que Batico veut amener. Donc, c'est pas juste venir discuter, c'est pas juste aussi venir discuter des problèmes que rencontre l'industrie, mais c'est directement proposer des solutions de valorisation telles que les concours et le Bati Prize. Donc le Bati Prize, c'est vraiment une innovation en RDC puisque c'est le premier prix congolais de l'architecture et du design. Le Bati Prize sera remis lors du gala Bati Prize le 3 octobre. Et nous aurons également plusieurs concours archi-design qui ont été organisés où on pourra justement récompenser les grands gagnants.
Toute personne voulant ériger un bâtiment doit se référer aux techniciens du domaine attitré. Appel lancé ce lundi lors du colloque d'architecture organisé par les étudiants de l'Institut National du Bâtiment et des Travaux Publics, INBTP, Butembo, au Nord Kivu. L'événement coïncide avec la Journée internationale de l'architecture. Reportage à Butembo de Grévy Salumou.
L'architecture pour le bien-être, Mind the Gap, telle a été la thématique choisie par les étudiants de l'IBTP pour marquer des cachets spéciaux cette journée. Objectif visé, stimuler les capacités et compétences des étudiants présents, la centaine a accumulé une expérience auprès des spécialistes en la matière. Dans son exposé qui a porté sur l'architecture et son approche multidisciplinaire, l'architecte Paluku Malembe Lazar a rappelé la responsabilité de tout un chacun dans la lutte contre les constructions anarchiques qui aboutissent des fois à l'écroulement des maisons.
Une mauvaise conception architecturale et structurelle souvent est à la base des incidents des ouvrages. Je vais nous inviter à consulter ceux qui sont appelés à œuvrer dans les secteurs en question. L'architecte, l'ingénieur civil ou BTP, l'urbaniste, le géomètre et topographe. Avant toute construction, consultez d'abord et surtout l'architecte inscrit sur l'ordre.
Le chef de la division unique à la mairie de Boutembo qui a représenté l'autorité dans ce colloque à s'allier ce genre d'initiative qui permettrait d'après lui à lutter contre des drames. Katsu Vatere Awite.
Avec des débats comme ça scientifiques, les gens se retrouveront responsables et nous allons faire face à des constructions qui ne pourront plus s'écrouler.
Dans un autre chapitre, en Ituri, 14 personnes tuées et 36 maisons incendiées, c'est le bilan de l'attaque des rebelles ougandais de l'EDF survenue ce week-end sur la localité de Kiamata, dans la chefferie de Bachu, en territoire d'Irumu. Des sources locales affirment que d'autres personnes ont été prises en otage. Les forces conjointes des FRDC et de l'armée ougandaise ont lancé l'assaut contre l'ennemi. La société civile locale appelle le gouvernement central à anéantir ses assaillants. Radio Kapibunia, Ezekiel.
Ces rebelles sont venus la nuit de samedi à dimanche du village de Moulangou où ils ont enlevé 10 personnes la semaine dernière. D'après des sources concordantes, des rumeurs circulaient déjà sur une probable attaque de cette localité par ces hommes armés. Ils ont assiégé le village de Kiamata avant d'ouvrir le feu la nuit vers les habitations des populations, expliquent des sources de sécurité. Selon la société civile locale, dans cette confusion, 14 personnes ont été tuées et 36 maisons incendiées. Parmi les victimes figurent 2 femmes et 2 enfants. Plus de 200 ménages enfouis dans les entités voisines autour de Boga où il y a la présence des FARDC et de l'armée ougandaise. Ces deux forces lançaient déjà des tirs d'artillerie sur les différents bastions de ces rebelles, indique le président des jeunes de cette entité. Cette intervention de la mutualisation des forces a obligé l'ennemi de se retirer de la zone où une accalmie s'observe depuis dimanche soir. Certains habitants ont commencé à regagner dans leur milieu d'origine. Des voix s'élèvent pour insister sur la nécessité de renforcer des patrouilles de combat dans cette région en vue d'anéantir définitivement tous les foyers de l'ennemi. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre région, autre drame. À Beni, au Nord Kivu, au moins 11 civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'EDF hier dimanche après-midi à Beou, Manyama, un village du secteur de Benimbaou. Le président de la société civile de Mamové parle d'un bilan provisoire. Les FARDC disent avoir neutralisé 3 assaillants. À Beni, la correspondance d'André Kitenge.
C'est vers 17h heure locale que ces présumés rebelles ADF ont attaqué le village de Beou Manyama à plus ou moins 20 km à l'ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Selon le président de la société civile de la localité voisine de Mamové, les assaillants seraient venus de la province de l'Ituri à partir de la rivière Samboko. C'est alors qu'ils ont abattu 8 civils sur place avant d'en exécuter 3 autres qu'ils ont enlevés peu avant leur fuite. Kinos Katuo parlait jusque-là d'un bilan provisoire, car la fouille pour tenter de retrouver certaines personnes qui n'ont pas répondu à l'appel ce matin se poursuit. Dans un communiqué de l'armée, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola Ingranor indique que les FRDC sont intervenus et se sont affrontés aux terroristes de l'ADF vers la rivière Samboko et la forêt de Kota Okola, au point Katoy, à la limite de la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Le capitaine Anthony Mwalushai indique qu'au cours des combats, l'armée a réussi à neutraliser 3 rebelles ADF et récupérer 2 armes de guerre de type AK-47. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Au sud Kivu, pendant ces temps, la situation reste tendue depuis hier soir à Kamanyola, dans le territoire de Walungu, au nord du territoire d'Uvira. Un soldat des FARDC a été brûlé vif par des habitants en colère qui accusent certains militaires d'être complices d'un vol survenu dans la cité. Des coups de feu ont été entendus dans la zone. Faisons le point de la situation avec vous, Fiston Gomamayabala.
La réunion vient de se terminer à Quai des Poissons. La population sollicite toujours le départ des militaires et puis la présence soit d'un délégué du gouverneur, soit de l'administrateur du territoire pour qu'ils puissent leur déposer leur mémo. C'est ce qui bloque le processus. Hein. On a commencé à 9h, jusqu'à maintenant on n'a pas encore trouvé une solution.
La route est toujours bloquée?
Toujours bloquée, à partir du pont jusqu'à la frontière. La route Ngomo Memema, oui, il y a des barricades. Tous les véhicules sont encore bloqués à Kamagnola. Et ceux qui provenaient d'Uvira, et ceux qui provenaient de Bukavu, tous sont bloqués là-bas. Nous demandons aux jeunes de pouvoir libérer d'abord la route pour qu'on puisse se mettre ensemble, s'asseoir ensemble et puis répondre à leurs propositions parce qu'ils demandaient toujours qu'on puisse remplacer les militaires alors que nous sommes incompétents de pouvoir prendre cette décision.
Et puis au Congo central, plus de 70 habitants du village de Kimbongo dans le territoire de Mbanzangungu sont sans abri et 3000 ménages n'ont plus accès à leurs champs. Une décision judiciaire a abouti à leur déguerpissement forcé depuis le 27 septembre dernier, après l'achat de leur village par un tiers. Des députés nationaux de la zone qui ont séjourné là-bas hier dimanche après-midi exigent la surséance de cette décision judiciaire, comme nous l'explique Amatadi. Nana Plurich Mambou.
À en croire les élus nationaux de Mbanzangungu, Roger Matondo et Pierre Tchumbu, 90 hectares de terre qui comprend les villages Kimbongo et ses vestiges a été acheté par une tierce personne. En effet, un conflit foncier opposé depuis les listes des familles habitant ces villages. C'est après les procès que la partie gagnante a vendu ses terres. Et c'est le 27 septembre que les villageois ont été surpris par une équipe judiciaire venue, sans une mise en demeure, exécuter la décision de déguerpissement prise par le tribunal de grande instance de Mbanzangungu. Le même source affirme que cette équipe judiciaire s'était fait accompagner de 15 policiers censés encadrer cette opération de déguerpissement ainsi que les hommes de main de l'acheteur. Lors de ce déguerpissement forcé, l'acheteur dont l'identité n'est pas encore révélée disposait de deux bus et des motos dans lesquels il a embarqué jusqu'au siège du secteur de Boko les villageois, parmi eux des enfants et des personnes de troisième âge ayant vécu dans ces villages toute leur vie. Sous la barbe des policiers, les hommes de main de cet acheteur ont incendié 26 maisons et tout ce qui s'y trouvait dans les villages Kilumbu et Lufulu, situés en amont du grand village Kimbongo. En prenant possession de ces 90 hectares de terre, cet acheteur a aussi privé de nourriture plus de 3000 ménages habitant le coin avoisinant ces villages vendus où ils exerçaient leurs activités champêtres. Pour l'heure, ces habitants sont abandonnés à leur triste sort au secteur de Boko et ils n'ont reçu aucune assistance jusqu'à présent. Les députés nationaux élus de Mbanzangungu disent poursuivre les démarches pour obtenir la surséance de cette décision judiciaire. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, en Mbujimayi, trois artères principales de la ville seront asphaltées en ce mois d'octobre dans le cadre du projet Chilejelou. Il s'agit des avenues Fatshibeton, Lumumba et Kasengulu. Annonce faite par le directeur provincial de l'Office de voirie et drainage, OVD, débuté depuis le 15 du mois dernier, les travaux de réhabilitation de près de 25 km de route tendent vers sa phase de chaussée. Explication du directeur de l'OVD, Trésor Kachala, s'est confié à la radio-télévision Fraternité Buenamuntu.
Sur l'ensemble des artères, les travaux sont déjà arrivés dans la phase de chaussée. Sur 5 de ces 11 artères, nous allons amorcer rapidement le travaux de pose de la couche de roulement, de la carpette en noir que toute la population de Kasserand doit voir. Les travaux de pose de la couche de roulement vont démarrer sur la route. Lumumba d'abord, où nous avons posé la monocouche de protection. Si nous devons parler d'asphaltage des différentes artères, je le dis, déjà au début du mois d'octobre, nous allons déjà avoir les premiers enrobés sur les avenues Lumumba, Lusambo, Kasengulu. Ajouter à cela le bétonnage du club MIPA qui prend les avenues Sankuru, la place de la coopération, l'avenue Kanchi et l'avenue Kimberlit que nous allons amorcer incessamment. Nous allons à cela ajouter l'avenue Chimie qui va de l'entrée du camp vers l'ancien BCRS qui va être prolongé aussi en béton armé ainsi que l'avenue État-Major.
On enchaîne avec le Maniema où l'identification des élèves et le recensement des écoles privées agréées posent problème selon le directeur provincial du service de contrôle de la paix des enseignants Sécopé. Adamou Kamoulété parlait de l'absence de certains chefs d'établissement et des parents qui ne déclinent pas les identités de leurs enfants. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Les exploitants et les collecteurs de données discernées rencontrent certaines difficultés. Parmi ces difficultés, une faible sensibilisation des gestionnaires au niveau de leurs écoles pour accueillir les exploitants pour faire ce travail d'identification, mais aussi, ils trouvent dans certaines écoles l'absence des chefs d'établissement. Il y a aussi dans certaines écoles les inscriptions continues. Ils n'ont pas encore jusque-là la maîtrise des effectifs des élèves inscrits. Au niveau aussi des écoles privées, les assistants, ils rencontrent des difficultés par rapport aux adresses de ces écoles-là où elles sont implantées. Il y a aussi les enseignants de certaines écoles privées n'ont pas de dossier. Et à ce qui concerne les parents, lorsqu'on remet les cahiers de communication aux élèves pour que les parents puissent remplir les identités demandées, certains parents sont un peu négligents pour prendre au sérieux cette opération de grande portée que le ministère de l'EPST est en train d'attendre.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, après les vives tensions du week-end, la vie reprend son cours normal à Ouagadougou, la capitale. Si les institutions françaises cibles d'attaques, de vandalisme restent fermées jusqu'à nouvel ordre, les commerces et de nombreux services de l'État ont rouvert leurs portes et la rentrée des classes a eu lieu comme prévu. Les enfants ont repris ce matin le chemin de l'école. Le capitaine Ibrahima Traoré, 34 ans, nouvel homme fort du pays, affirme qu'il n'est là que pour expédier les affaires courantes et qui n'a pas du tout l'intention de présider la future transition. Au Brésil, l'ex-président de gauche Lula est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle hier dimanche devant le chef d'État d'extrême droite Jair Bolsonaro, mais son avance est moins importante que le prédisaient déjà les sondages. Un second tour est projeté pour le 30 octobre.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur de l'Agence nationale d'électrification et du service énergétique en milieu rural. Thierry Sassi-Condé affirme que cette agence a été installée à Kisangani dans un contexte particulier lié au déficit criant d'électricité. Il s'entretient à Kisangani avec Jacques Mkonkole.
Thierry Sassi-Condé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur de ANSER. Vous êtes déjà installé à Kisangani. Peut-on savoir la mission assignée à votre agence?
Alors, l'ANSER a comme mandat la promotion de l'électrification rurale. Dans sa mission, elle est là pour formuler un plan national d'électrification des milieux ruraux et périurbains, mais aussi soutenir techniquement et financièrement toutes les initiatives publiques ou privées dans l'investissement qui vise le développement du secteur de l'électricité dans les milieux ruraux et périurbains. Mais elle a aussi comme mission de développer le business de l'électrification, parce que beaucoup de personnes ne savent pas encore qu'ils peuvent investir dans le business de l'électrification.
Thierry, concrètement, comment pouvez-vous soutenir ces initiatives privées?
Nous apportons un soutien technique et financier. Pour ceux qui viennent déjà avec les financements, nous les accompagnons, nous faisons la facilitation auprès des autorités pour qu'ils aient des autorisations par-ci par-là. Et nous les accompagnons aussi dans les études techniques, par exemple. Si elles sont déjà à notre disposition, nous les mettons à leur disposition pour qu'ils puissent développer leur business sans beaucoup de difficultés.
ANSER s'installe à Kisangani au moment où la ville connaît beaucoup de difficultés. Sur le plan énergétique, que peut faire votre agence ANSER afin de résoudre le problème de l'électricité dans la ville de Kisangani? L'autorité provinciale en est vraiment très préoccupée.
Exactement, là c'est vraiment un problème. Comme le dit le nom de l'ANSER à la fin, c'est en milieu rural et périurbain. Ça veut dire que concernant Kisangani, la zone d'action de l'ANSER, c'est le périurbain, les zones périphériques de Kisangani. Alors avec le problème que connaît la Tchopo, l'ANSER ne peut qu'aller rapidement dans le développement des solutions isolées pour la périphérie. Comme ça, la SNEL va se concentrer sur le centre. Donc le peu qui peut être disponible pourra être distribué concevez dans le centre seulement et non dans le périurbain. Donc nous sommes en train de faire en sorte qu'on puisse faire quelque chose rapidement dans le périurbain de Kisangani.
Comment cela peut-il se faire concrètement?
Concrètement, nous sommes en train de préparer déjà tout ce qu'il faut. Nous sommes en train de finaliser en fait la construction d'une centrale solaire de 500 kW qui est prévue à Kisangani.
Vous allez vous concentrer dans l'interland de Kisangani. Allez-vous travailler en solo ou allez-vous collaborer avec la SNEL?
En fait, la SNEL, c'est un partenaire privilégié, hein, c'est l'opérateur national. Donc rien ne peut se faire sans recourir à la SNEL dans une certaine mesure.
Pourquoi ne pas soutenir, appuyer la SNEL pendant cette période où elle connaît beaucoup de difficultés à Kisangani avec sa centrale qui est déjà en état de vétusté très avancé?
Justement, notre façon de soutenir la SNEL, c'est de pouvoir nous bien faire notre travail dans le périurbain. Comme ça, la SNEL va bien se concentrer sur toute la partie urbaine.
À partir de quand exactement vous allez vous mettre à l'œuvre sur le terrain?
Alors, je comprends que quand vous dites vous mettre à l'œuvre, c'est de voir le commencement des travaux. Là, nous avons déjà lancé la construction de la centrale de Yamé qui est dans le territoire de Banalia à 36 km de Kisangani ici. Nous sommes vraiment en pleine période d'analyse d'offres. Donc ça, c'est un projet qui est déjà sur la table en pleine exécution. Donc les travaux vont suivre juste les procédures et puis voilà.
Là, c'est pour desservir quelle entité?
C'est pour desservir tout le coin où il y a le village Babubuzi à côté du pont Lindi sur la RN4 en allant vers Bouta.
Avez-vous un plan d'électrification pour le reste des territoires de la province d'Achopo?
L'ANSER, en fait, a eu à produire des plans locaux d'électrification pour les 145 territoires. Ce qui veut dire que les 7 territoires de l'Achopo sont aussi concernés, ainsi que tous les 24 autres territoires de la Grande Orientale.
Disons que ce travail s'est fait dans le cadre du projet de développement des 145 territoires.
Cela a même été fait en amont du programme de développement des 145 territoires. Nous avions déjà prévu ce qui devait être fait d'ici 2025 pour chaque territoire et qui sera encore fait d'ici 2030 pour chacun des 145 territoires.
Quel message pouvez-vous adresser à la population de Kisangani en particulier, celle de la Chopo en général?
Que la population ne se décourage pas. L'État est bel et bien là pour redonner la lumière, pour donner la lumière à ceux qui n'en avaient jamais eu dans leur village. Donc nous sommes en train de descendre dans les villages et ils nous verront vraiment chez eux allumer les ampoules.
Thierry Nsila Kondé, merci.
Merci à vous, M. Mkongolé.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur de l'Agence nationale d'électrification et du service énergétique en milieu rural et périurbain. Thierry Sassi Kondé a été interviewé à Kisangani par Jacques Mkongolé et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Alain Rungumushishi.